OK, on va continuer notre étude sur le livre de Lévitique. Alors, la semaine dernière, on avait vu la structure du livre avec l'arrière-plan, le but principal. Il y avait le plan général du livre, des thèmes majeurs dans le livre du Lévitique. Il y avait des personnages clés, des versets clés, des leçons pour le peuple de Dieu, la place et la présence de Jésus-Christ. Alors, dans les chapitres 1 à 17, nous avons la base de la communion. Si les Israélites avaient une base pour la communion qu'ils avaient entre eux, c'était à cause du sacrifice. Et cette section parlait principalement de plusieurs choses. Premièrement, les sacrifices eux-mêmes, avec les différents types de sacrifices qu'il y a dans le livre de Lévitique. Il y avait aussi le thème de la consécration des sacrificateurs. Il y avait celui de la consécration du peuple aussi dans son entièreté. Et il y avait aussi la description du jour des expiations. Dans l'autre partie du chapitre 18 au 27, on a la marche en communion. Donc, il y en a un qui c'est la base de la communion. L'autre, c'est la marche dans la communion, qui est la séparation. Un des thèmes du livre de Lévitique, c'est la sanctification, donc la séparation des choses du mal. Alors, cette section-là comprenait les lois de la sanctification du peuple, les lois de la sanctification des sacrificateurs, les lois de l'adoration, les lois dans le pays de Canaan et les lois sur les vœux. Bien entendu, je vous dis ça comme ça, là, si jamais il y en a parmi vous qui n'ont jamais lu le livre de Lévitique au complet, c'est sûr que vous allez peut-être avoir des difficultés à suivre, là, parce que des fois, si on ne l'a pas lu, c'est sûr que ça peut vous emmener des fois, vous ne comprendrez pas nécessairement. Mais si vous ne l'avez jamais lu, je vous conseille de le lire, parce que c'est important. Il y a plusieurs leçons qui parlent de Christ là-dedans, sous différentes facettes, différents angles. Et c'est souvent les premières fois qu'on les lit. Moi, je me souviens la première fois que j'ai lu le livre de Lévitique. Je n'ai pas compris grand-chose, pour être bien franc avec vous, là. Mais il y a des livres dans les Écritures qu'on lit, qu'on en comprend une grande partie tout de suite. Il y a d'autres livres qui ont besoin d'être étudiés. Et le livre de Lévitique, c'est un livre qui a besoin d'être étudié. Si vous voulez vraiment bien le comprendre dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes, il faut quelque part transpirer, comme on dit un petit peu. Il faut faire des efforts, comme on dit. Alors, on avait parlé que dans les différentes sections, il y a des sujets qui reviennent, comme par exemple celui des offrandes ou des sacrifices. Si vous lisez votre livre de Lévitique, du chapitre 1, allez jusqu'à la fin du chapitre 7, verset 38, les sept premiers chapitres, vous allez voir qu'ils parlent de sacrifices, de différents types de sacrifices. Et ces sacrifices-là, dans le fond, c'est des aspects, un aspect ou un autre de l'œuvre de Jésus-Christ. Si on lit ça, et qu'on ne voit pas ça à l'intérieur de ces livres, de ces sacrifices-là, quelque part, on est porté à voir ça au premier degré, alors qu'il y a beaucoup de symbolisme là-dedans. Alors, quand on les regarde, il y a trois sacrifices qui sont dans les sept premiers chapitres de Lévitique, qu'on pourrait dire que la fin dit que c'était une agréable odeur à l'Éternel. Si vous avez déjà lu, vous vous souvenez de ça. Et il y a les deux derniers, donc il y en a cinq offrandes, il y en a trois que ça dit que c'est une agréable odeur à l'Éternel, et il y en a deux où on ne dit pas que c'est une agréable odeur à l'Éternel. On va les regarder ensemble et on va essayer de voir quel aspect de l'œuvre de Jésus-Christ que ces offrandes-là représentent. Alors, quand on parle de l'Holocauste, parce que si vous allez relire les sept premiers chapitres, vous allez voir qu'il y a cinq offrandes et que les offrandes sont toutes décrites. Il y en a une, c'est l'Holocauste. L'Holocauste, c'est ce qu'on pourrait dire la plénitude de la dévotion de Christ. Ça représente le fait que quand Christ est venu, il a voulu accomplir à la perfection la volonté de Dieu à son égard pour le salut des hommes. Donc, quand on dit la plénitude de la dévotion, c'est le premier qui est présenté, l'Holocauste. Donc, Jésus, quand il est venu sur la terre, il a d'abord fait son œuvre, d'abord pour la gloire de Dieu, et aussi pour l'accomplissement de sa volonté. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle l'Holocauste, parce que l'Holocauste, pour Dieu, c'était... Jésus a d'abord fait l'œuvre qu'il a fait pour nous, pour son Père. C'est pour ça que c'est accepté aux yeux de Dieu le Père comme étant un sacrifice d'agréable odeur. La deuxième, c'est celle que, quand vous lisez, il appelle ça l'offrande de fleurs de farine ou de gâteau, dépendamment des versions. Les versions qui appellent ça fleurs de farine, d'autres appellent ça fleurs de gâteau. Ça, c'est la vie parfaite de Christ sur terre, qui a été formée, qui a été remplie et qui a été conduite par le Saint-Esprit. Si vous regardez les termes en anglais, ceux qui lisent l'anglais, là, le premier, c'est... qu'on a vu l'Holocauste, c'était « the fullness of Christ's devotion ». Fullness, ça veut dire « dans sa plénitude ». Le deuxième, c'est l'offrande de fleurs de farine, ça représente sa vie parfaite qu'il a menée sur terre. Il avait le Saint-Esprit en plénitude et il a vécu sa vie complètement dirigée par le Saint-Esprit. Et ça, bien entendu, aux yeux du Père, c'est quelque chose d'agréable odeur. Donc, la deuxième, c'est ce qu'on pourrait dire en anglais, c'est « flawlessness of Christ's devotion ». Flawless, quand on dit « flaw » en anglais, c'est d'avoir un manquement. Flawless, ça veut dire que la vie de Jésus sur terre a été d'une parfaite obéissance au Père. Quand il est venu sur la terre, beaucoup de passages nous disent que Christ n'a jamais péché d'aucune façon. Tout ce qu'il a fait, c'était de la perfection de l'obéissance. C'est pour ça qu'on dit que c'est une offrande de fleurs de farine. Souvent, la farine dans les Écritures, c'est un symbole du Saint-Esprit. La fleur de farine, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, quelque part, la vie de Christ représente une offrande de fleurs de farine. Et bien entendu, la vie parfaite de Christ qui a mené sur la terre, aux yeux du Père, c'est quelque chose d'agréable odeur. Il aime ça. Troisième, c'est ce qu'on appelle l'offrande de prospérité ou d'action de grâce. Donc, l'adorateur, en communion restaurée avec Dieu, et c'est sa capacité de l'adorateur à jouir de celui qui fait éternellement les délices de Dieu. Ce qu'on appelle « the fruitfulness of Christ's devotion ». Autrement dit, tout ça, ça produit du fruit dans la vie de ceux qui ont reçu la grâce de « fruitfulness », une vie remplie de fruits à cause de son œuvre, à cause de son influence et tout ça. Donc, ça, c'est les trois premiers. C'est intéressant, si on pourrait aller plus en profondeur, vous verriez que étudier ça, c'est un vrai plaisir, surtout si tu prends ces versets-là et le symbolisme de ces offrandes-là et t'es mis en relation avec le Nouveau Testament. Ça devient clair, limpide, ça devient hyper intéressant. Donc, les trois premiers, c'est aux yeux de Dieu quelque chose d'agréable odeur. Et les deux autres, on a dit que ça n'a pas d'agréable odeur. Pourquoi? Parce que la quatrième offrande, c'est une offrande pour le péché. Le péché au singulier. Quand vous regardez le texte, ça dit le péché au singulier. Qu'est-ce que ça veut dire le péché au singulier? Ça veut dire la nature pécheresse qu'on a héritée d'Adam et qui se transmet de génération en génération depuis que le premier couple Adam et Ève ont tombé. Donc, c'est l'offrande qui est faite pour la nature pécheresse. On en hérite toutes, on a tous une. Donc, à quelque part, pourquoi que Dieu, pour lui, c'est pas une agréable odeur? Parce qu'il y a le péché. Quand il y a du péché, le Seigneur... Alors, c'est l'œuvre de Christ qui vient régler le problème du péché. Parce que si on est sauvé... Non seulement il règle le problème des péchés au pluriel. Péché au pluriel, c'est l'ensemble des péchés qu'on a commis au cours de notre vie, soit en pensée, soit en parole, soit en action, soit en omission. Mais ça, c'est des péchés au pluriel. Mais notre nature pécheresse, elle, est pécheresse, là. On l'a hérité. Donc, fallait que le Christ paye pour que ce péché-là qui est en chacun d'entre nous soit payé aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle l'offrande pour le péché au singulier. Donc, la nature, notre nature pécheresse à tous et à chacun individuellement. Maintenant, quand on parle de l'offrande pour le délit, donc là, c'est les péchés au pluriel, comme on vient de dire. Depuis qu'on est au monde, on vient au monde avec la nature pécheresse. Donc, un enfant qui vient au monde, il est déjà pécheur. Puis, c'est pas trop long. Un an et demi, deux ans, tu vois déjà les enfants, tu les mets les deux dans un parc, ils sont prêts à s'entretuer pour une bebelle. La nature pécheresse est déjà très profondément ancrée dans même l'enfant. L'enfant très, très jeune, même bébé, il commence déjà à vouloir imposer sa volonté. Alors, l'offrande pour les péchés au pluriel. Donc, c'est l'œuvre de Christ. Ça représente l'œuvre du Christ qui vient régler le problème du péché, des péchés dans la vie des individus, de tous ceux qui sont sauvés dans le monde. C'est vraiment, quand je vous dis, c'est de valeur qu'on n'ait pas le temps de plus les étudier, parce que souvent, quand on va lire les sept premiers chapitres de Lévitique, on ne comprend pas vraiment tout ce qui se passe, quoi ça représente, c'est quoi le symbolisme qui a un rapport avec l'œuvre de Jésus-Christ quand il est venu sur la terre. Bien entendu, si on ne voit pas Christ, Christ est le centre. À chaque page des Écritures, on parle de Christ d'une façon directe, indirecte. Il est le centre des Écritures, il est le thème des Écritures. Alors, si on lit, puis qu'on oublie ça, là, tout ce qu'on voit, c'est des animaux qui se font engorger. On ne comprend pas le but de Dieu de nous donner ce livre-là. Il ne faut pas oublier une chose quand on lit les Écritures. Les Écritures disent « Toute Écriture est inspirée de Dieu », qui veut dire « soufflée de Dieu », et ça a un but. Si on lit les livres de l'Ancien Testament, où il y a certains livres qui sont plus difficiles que d'autres, puis qu'on ne voit pas Christ à l'intérieur de ça, on manque le bateau, comme on dit. Puis on peut vous dire une chose, ça prend du temps avant qu'on ne manque plus le bateau. Puis ça prend de l'étude avant qu'on ne manque plus le bateau. C'est de valeur à dire, mais c'est ça qui est c'est la vérité. Alors, les Écritures ne donnent pas toute leur bénédiction sans qu'on fasse un petit peu d'effort ou sans qu'on se fasse au moins expliquer. Alors, c'est ça qui est le but des leçons. La deuxième chose qu'on a dit qu'on avait dans la première section du livre de Lévitique, donc c'est de 1 à 17. Donc là, on va voir la section 8 à 10. Si vous allez dans vos Bibles, dans Lévitique, puis vous regardez chapitre 8, 9, 10, ça parle de quoi? Ça parle de la consécration des sacrificateurs. Autrement dit, les hommes qui devaient servir à toute faire ces sacrifices-là, c'était des hommes. Et Dieu avait des exigences face à ces personnes-là. Il fallait qu'ils soient préparés, il fallait qu'il y ait certaines caractéristiques. Alors, ce que je voudrais vous faire remarquer par rapport aux notes que je vous ai données aujourd'hui, c'est le fait que c'est la leçon que je vous ai donnée qui était la plus longue. Si vous regarderez ça, il y a 32 pages. Mais pourquoi 32 pages? Je vais vous l'expliquer parce que c'est important. Sinon, vous n'allez pas comprendre vraiment ce qui se passe. Les 8 premières pages, c'est une présentation générale de la structure et des explications sur le livre de Lévitique. Mais à partir de la page 9, ça, c'est un résumé que j'ai trouvé sur Internet qui prend tout le livre de Lévitique et qui le divise en petites sections et qui vous explique qu'est-ce que cette section-là des Écritures vous parle de Christ. Comment cette section-là vient vous parler de Christ. Et là, ça fait ça pour toutes les sections, Lévitique 2, Lévitique 3, tous les chapitres. Et à quelque part, moi, j'ai trouvé ça tellement intéressant que si vous prenez la peine, là, je ne sais pas si on va faire ça, parce qu'il y a deux manières de le faire. Soit que, ce soir, on va regarder les 8 premières pages pour regarder l'ensemble du livre, mais à partir du moment où on arrive dans les explications de toutes les sections, il y a deux façons de le faire. Ou je vous le lis, avec en étant le moins plate possible, parce que lire, c'est... je vous dis, lisez-le chez vous. Prenez le temps. Parce que Quand on reçoit un document de cette importance-là, écoutez, là, je sais comment ça marche, un être humain en suit un. Parce qu'on est paresseux. Et des fois, on arrive, on met le document là, puis là, on ne lit pas. On ne fait pas l'effort. Donc, quand vous allez relire votre livre de Lévitique, vous allez encore le trouver ennuyant. Pourquoi? Parce que vous ne verrez pas Christ dans le livre. À partir du moment où on voit que tout le symbolisme qu'il y a là-dedans, ça représente notre Sauveur Jésus-Christ, ça devient hyper intéressant. Puis je dis pas ça, c'est vrai. Les Écritures, tout parle de Christ, et à partir du moment où on commence à comprendre ça, et qu'on voit dans le symbolisme des aspects ou d'autres aspects de Christ, à quelque part, les Écritures viennent un temps qui ne deviennent pas... Ça vaut remarquer ça comme des fois, on prend les Écritures, puis on dirait qu'on a de la misère à les lire, parce qu'on dirait qu'on ne trouve pas ça intéressant. Ça vous est déjà arrivé, ça? On ne trouve pas ça intéressant. Pourtant, les Écritures nous disent « Toute Écriture est soufflée de Dieu ». Lévitique est soufflé de Dieu aussi. À quelque part, si on ne prend pas le temps d'aller lire ces petites sections... Pourquoi je vous le dis? Parce que je sais que la tentation est grande. Comme je vous dis, il y a deux manières. Ou bien non, on prend trois semaines puis que je vous les lis un par un tranquillement puis que j'explique. Ou bien non, on fait les huit premières pages puis après ça, je vous dis, vous êtes capable de le lire par vous-même aussi, là. Mais en tout cas, des fois, j'hésite un petit peu entre les deux méthodes, parce que la méthode qui me semble la plus profitable, ce serait de le lire. Mais c'est plus long, puis c'est plus difficile. Parce que moi, je suis pas capable de tout retenir ça par cœur, même si je voudrais. Là, j'aimerais beaucoup ça, être capable de tout savoir ça par cœur, puis pas avoir besoin de mes feuilles, puis vous dire ça comme ça. Là. Mais c'est pas le cas. Fait que... Alors, ce qu'on va regarder, les remarques du document... qui s'appelle résumé des chapitres de Lévitique. Ça, je vous les ai mis à partir de la page 9 jusqu'à la page 32. C'est pas très long, hein? Ça prend un chapitre, ça prend peut-être l'équivalent d'à peu près une demi-page. Mais si vous lisez ça attentivement, vous allez vous rendre compte que le livre de Lévitique est beaucoup plus intéressant que ça n'a l'air à première vue. Donc, il y a les chapitres 8 et 9, ça nous parle... que le Seigneur, au point de vue des offrandes et des sacrifices, il y a deux façons. Il y a une façon qui accepte, une façon qui aime, et il y a une façon qui n'aime pas et qui juge. C'est ça le chapitre 8 et 9. Donc, quand on regarde dans le chapitre Lévitique 9, versets 23 et 24, comme vous avez dans votre texte, « Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. » Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Donc, c'est la façon... Pourquoi qu'ils ont vu que le feu était sorti, puis que ça avait consumé tout ça, l'autel? C'est parce que le Seigneur acceptait la manière que c'était fait. Maintenant, quand vous arrivez au chapitre 10, 8 et 9, autrement dit, vous voyez la manière dont Dieu veut que les sacrificateurs fassent leur travail. Au chapitre 10, vous avez un exemple de quelqu'un qui présente au Seigneur des offrandes, non pas selon la méthode qui est prescrite par Dieu. Alors, on a le fameux passage de Nadab et Abihu. Et si vous avez lu votre passage, vous vous souvenez qu'est-ce qui est arrivé avec eux? Ils présentaient un feu étranger. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Ils ont jugé, sont morts les deux. Mais là, on peut se dire, Nadab et Abihu, veux-tu bien me dire qu'est-ce que ça fait pour moi, un chrétien du 21e siècle? Bien, ça veut dire que si vous ne présentez pas au Seigneur des offrandes selon sa volonté, vous risquez un jugement. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Alors, Nadab et Abihu ont commis un très grave péché en apportant un feu étranger devant l'Éternel. Ils furent consumés par le feu et moururent par leur faute. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire les choses à leur manière et non pas à la manière commandée et prescrite par Dieu lui-même. Alors, ce fut un péché qu'on pourrait appeler de présomption et de rébellion, parce que ça dit dans le texte ce qu'il ne leur avait été point ordonné. Autrement dit, ils ont fait les choses d'une manière que Dieu n'avait pas dit de faire ça de cette façon-là. Puis qu'est-ce que ça leur a attiré? Un jugement, et pas n'importe quel. Un jugement de mort. Alors, quand on fait le repas du Seigneur, des fois le dimanche, puis qu'on dit que le Seigneur peut juger ceux qui ne font pas les choses conformément à sa volonté, et qu'il dit aussi qu'il y a eu des personnes qui ont été malades, qui ont été infirmes, qui ont été jugées jusqu'à la mort parce qu'ils n'ont pas fait les choses selon ce que Dieu dit. Faut pas... Tu sais, on est porté, nous autres, on lit quelque chose, on pense que Dieu se tient en arrière de sa parole. Quand il dit de quoi, t'es mieux de faire attention à ce qu'il dit, parce que si Dieu, tu vas trouver que ça peut être raide des fois. Alors, c'est pour ça qu'il faut écouter ce que Dieu dit. Alors, ça fut un péché de présomption et de rébellion. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont profané le feu. Ils ont profané quelque chose qui était très sacré et ils ont méprisé le commandement de Moïse et de Dieu. Ils étaient ivres dans le sanctuaire. Et le sanctuaire, c'était où? Le sanctuaire, c'est la partie du tabernacle qui était la plus sainte. Tu ne rentres pas là à moitié pacté, autrement dit. Ils ont eu un jugement, mais ils l'ont mérité. Ils savaient, ils l'ont fait pareil. C'est là qu'on voit le péché humain. Alors, ils ne prirent pas le feu provenant de l'autel d'Airain. Quel est le symbolisme de ça? Ils n'ont pas pris le feu qui venait de l'autel d'Airain. L'autel d'Airain représente quoi? Représente le jugement de Dieu sur son fils qui a complètement consumé la victime. Le jugement de Dieu sur Christ. Eux sont allés, puis il fallait que le feu que tu prennes, tu le prennes de l'autel d'Airain. L'autel d'Airain, c'était l'autel où on mettait la victime sur la grille, si vous vous souvenez, ceux qui ont vu, et ils mettaient le feu en dessous, ça brûlait complètement. Si tu prenais un feu qui venait d'ailleurs, autrement dit, le symbolisme, c'est que tu prenais pas le feu qui venait de Dieu. Il y a quelque chose de très, très grave à l'intérieur de ça. On rentre pas dans les détails de ça ce soir, mais c'est juste de voir que c'est important, quand les choses sont faites selon ce que Dieu dit, c'est béni, puis quand les choses sont faites selon la volonté des hommes. Et aujourd'hui, où on voit ça? On peut voir ça dans des cultes. Un culte, en général, un culte de Dieu le dimanche, il faut que ça soit fait en conformité avec ce que Dieu dit, de la manière dont il veut que le culte soit fait. La parole de Dieu, la prière, les louanges, et plein d'autres choses qu'on fait dans une église locale fidèle. Mais aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, c'est rendu des spectacles. Et quand t'es rendu que tu fais un culte qui se transforme en spectacle, t'es dans le domaine de Nadab et Abihu. Faut voir les liens, parce que quand on les voit pas, on se rend pas compte de ce qu'on fait. C'est dangereux de jouer. Il faut faire les choses de la manière dont Dieu nous dit de les faire. Tout dans un culte du dimanche, ou même du mercredi, ça devrait être fait selon ce que Dieu dit que ça devrait être fait. Parce que si tu le fais pas de cette façon-là, si on se rassemblerait le mercredi, puis ce serait juste pour rencontrer des farces plates, puis rire de nos jokes, le Seigneur n'approuverait plus puis bénirait plus rien de ce qui se passe dans une soirée de prière. Et la même chose pour le dimanche. Il faut faire les choses de la manière dont Dieu nous dit de les faire. Donc, pour aujourd'hui, je pense qu'on va arrêter là, puis on est rendu au point de la consécration du peuple.